l'affaire Pierre Palmade. Ce sont les deux sujets qu'on va explorer avec nos débatteurs du jour, nos deux dessinateurs de presse. Pierre Kroll, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve dans Le Soir, dans Le Ciné Télé Revue. Et Nicolas Vado, bonjour.
Avec vous,
ah, magnifique, on vous entend très bien, Nicolas, vous dessinez dans L'Écho. Et dans Le Vif, on commence par un petit extrait sonore que vous allez probablement reconnaître.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie.
Voilà, extrait du discours, le fameux discours de Vladimir Poutine dans la nuit du 23 au 24 février 2022, discours avec lequel il a officiellement lancé l'offensive contre l'Ukraine. Un an plus tard, Nicolas Vado, vous avez choisi de présenter deux hommes en duel, Poutine et Zelensky, façon Harry Potter. Pourquoi ?
Oui, j'ai pris l'idée de Harry Potter et les reliques de la mort, qui est le dernier tome, qui est en deux parties, comme c'est déjà la deuxième année de guerre. Et je me suis dit qu'en fait, le personnage de Poutine ressemblait à Ralph Fiennes dans Harry Potter. Il fallait que je lui enlève le nez pour voir s'il était toujours ressemblant. Et c'était le cas. Et ce que je voulais vraiment montrer, c'est qu'on est vraiment dans un combat assez manichéen dans Harry Potter, et c'est un peu le cas ici aussi, entre le bien et le mal. Ce qui est le cas ici, n'en déplaise au PTB, c'est-à-dire qu'il y a quand même un agresseur et un agressé. Et puis dans Harry Potter, Voldemort croit gagner jusqu'au bout avant d'être défait. Alors quand je fais un dessin comme ça, je me pose la question de voir si je ne vais pas sombrer dans la belle image qui pourrait paraître un peu cynique, mais je pensais que le parallèle était intéressant de faire les deux personnages face à face avec un an de guerre. Et puis j'ai fait un deuxième dessin qui était paru dans le Vif Express, celui-là, où je montre Poutine qui est devant une bougie d'un gâteau aux couleurs de l'Ukraine maculé de sang, et ils disent que quelqu'un veut souffler la bougie avec moi, et derrière lui, il y a des milliers de gens qui ont des têtes, quasiment des têtes de mort, qui le regardent fixement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 300 000 morts, c'est le titre du dessin, 300 000 morts plus tard, en fait, il y a plus que ça, parce qu'il y a 200 000 morts parmi les soldats russes, plus de 100 000 chez les soldats ukrainiens, et 30 000 civils irakiens, ce qui est quand même pas rien.
Vous aviez envie de mettre cet aspect-là aussi en avant, l'impact humain, finalement, de cette guerre?
Oui, tout à fait, parce que on se demande pourquoi ces 300 000 personnes sont mortes, on ne sait pas encore, parce que cette opération militaire spéciale, comme il l'appelait, n'a pas du tout donné les fruits qu'il pensait qu'elle donnerait, et donc ça a ouvert un nouveau champ géopolitique. J'ai fait un autre dessin avec la Chine qui surnage au-dessus d'un bras de fer entre les États-Unis et la Russie sur le champ de bataille ukrainien, avec Xi qui arrive comme un magicien avec son plan de paix, parce que la Chine joue un rôle ambivalent, et en fait ce qui se dessine, c'est une nouvelle guerre froide du 21e siècle entre non pas les États-Unis et la Russie, mais entre les États-Unis et la Chine, avec l'allié européen d'un côté pour les Américains et l'allié russe pour les Chinois.
Pierre Kroll, votre premier dessin, Poutine sur un char, hein, prêt à envahir l'Ukraine, qui dit aux soldats qui conduit le char, ça va être vite fini, vite gagné. C'est un peu l'idée aussi qu'on retrouve dans un deuxième dessin avec deux soldats dans une tranchée. Le premier qui dit « j'en ai rien à foutre de l'anniversaire », l'autre qui répond « il y en aura d'autres ». On sent que vous insistez là derrière sur le côté long, hein, l'issue difficile à imaginer de ce conflit.
Long évidemment pour des victimes. Dites d'abord, j'aurais dû vous dire bonjour en paraphrasant mon ami Bouly Lanners. Putain, moi aussi, hein, je viens de Liège.
Ah, et ça, ici. Qu'est-ce qu'on est content, bravo.
Voilà, deux Liégeois ce matin. Bon, le premier dessin que vous citez, il n'est pas encore paru, en fait, il sera dans trois jours dans Ciné Télé Revue. Tout simplement, oui, le 24 février 2022, Poutine qui rentre en char en Ukraine et qui dit que ce ne sera pas long. On a vu, la suite, c'est loin d'être fini. Ça, c'est très simple. Vous oubliez un autre dessin, celui du 24 proprement dit, dans le journal Le Soir. J'ai choisi pour ce jour précis de l'anniversaire de dessiner Poutine accouchant. Il est donc sur une table.
J'allais y venir après.
D'accouchement. Ah, pardon.
Mais il n'y a pas de souci, allez-y. Hein.
Je les remettais dans l'ordre, moi. mais votre question était judicieuse. C'est vrai, ce que je veux montrer, alors on va le dire un peu en désordre, mais c'était le jour exact. Cette idée de l'accouchement, c'est surtout pour montrer que. Qu'on le veuille ou non, parce qu'on peut discuter longtemps des raisons de cette guerre, de ce qui aurait pu être fait peut-être pour l'éviter avant, de ce qui a peut-être été fait par certains pour la provoquer encore plus, de ce qui pourrait être fait maintenant d'un point de vue diplomatique et qui ne l'est pas. Tout ça, on peut évidemment en parler beaucoup. Il reste une chose, comme l'a dit Nicolas, qui est incontestable, c'est que le 24 février 2022, les chars de Poutine sont rentrés en Ukraine. Et moi, je ne pense toujours que aux victimes de ça. Les gens qui sont en train de crever là-bas n'en ont que faire de tous ces débats pour savoir exactement comment tout ça a commencé. Parce que vous savez, la vérité est la première victime des guerres. Hein. Il y a beaucoup de propagande, évidemment, des deux côtés. Donc voilà, c'est incontestable. Et puis le médecin qui assiste à l'accouchement s'écrit, comme on dit parfois, c'est un garçon ou c'est une fille, ben il dit c'est une guerre. Et ça, la vision est
ça veut dire qu'on peut identifier
aussi,
vraiment le bébé maintenant, c'est ça. On voit bien que c'est une guerre et pas juste une opération
voilà,
de dénazification.
Exactement, ça conteste le vocabulaire que Poutine tente d'imposer. Alors pour le lendemain, j'ai montré effectivement deux soldats ukrainiens dans une tranchée qui sont... Ben, y en a un qui dit « moi j'ai rien fait pour cet anniversaire, bon, voilà, c'est tragicomique », et l'autre qui lui dit « ben, y en aura d'autres ». Alors je ne suis pas sûr et j'espère que non, mais là le dessin fait allusion au fait que cette guerre, quand va-t-elle finir? Le principe d'une guerre c'est de faire des morts, et les gens qui font la guerre, on a l'impression qu'ils veulent en faire un maximum. Vous savez, la guerre de 14-18, les historiens vous expliqueront qu'elle aurait pu finir un an plus tôt, parfois deux ans plus tôt, elle aurait pu aussi ne pas avoir lieu. Bon. Donc combien faudra-t-il de morts pour qu'on se mette un moment quand même autour d'une table pour dire il faut que ça cesse. Quand on entend Zelensky qui veut une victoire absolument totale avec notre aide, nous sommes maintenant des co-belligérants, hein, ne nous cachons pas derrière d'autres mots, hein, on donne des armes à l'Ukraine, on est en guerre contre Poutine, nous aussi. Mais voilà, pour combien de temps? Et de l'autre côté, Poutine qui rappelle que la Russie est imbattable, ben voilà, c'est parti pour combien de temps? Ce n'est que cette triste chose que je voulais montrer dans ce dessin.
Je reviens quand même sur ce dessin-là encore avec cette tranchée. On voit que vous avez vraiment utilisé des gros traits noirs autour des deux personnages, des deux soldats. C'est une façon aussi de noircir un peu la situation. C'est quoi l'idée derrière ce coup de crayon?
Oui, incontestablement. Vous savez, le dessin, c'est quelque chose d'assez physique. Hein. Et quand on dessine quelqu'un qui sourit, parfois, si vous nous regardez, on est en train de sourire, nous aussi, sans s'en rendre compte. Quand je dessine des ruines, un paysage tout cassé, détruit, démoli, eh bien, j'y vais vite, je le fais fort, je casse moi-même mon propre dessin avec des taches noires, etc. Pour la petite histoire, ce dessin du vendredi soir, je l'ai fait à 18h et j'étais attendu à l'avant-première d'un spectacle formidable qui, pour changer un peu et parler d'autres chose, enfin évoquer autre chose, a lieu maintenant toute la semaine encore, deux fois par jour, c'est rempli tout le temps, hein, bonne chance, mais c'est le carnaval des animaux à l'Orchestre Philharmonique de Liège, c'est magnifique, tout
Liège,
simplement
encore
magnifique,
Liège, bien,
encore Liège,
bien sûr,
voilà. On est tous des petits-enfants, allez voir ça, c'est quelque chose de magnifique.
Et en plus comme ça on a les coulisses de votre travail. Voilà. Autre sujet qui fait beaucoup parler depuis le 10 février, l'accident de voiture de Pierre Palmade et les autres dossiers qui ont surgi dans la foulée, addiction à la cocaïne, possibilité d'une enquête à son égard pour détention d'images pédopornographique. Nicolas Vado, avec votre premier dessin, d'abord un petit clin d'œil à notre actualité drogue en Belgique, à Anvers, si on peut dire. Expliquez-nous.
Oui, parce qu'il y avait la semaine dernière la conférence de presse de Alexander De Croo et Van Krukenborg sur leur plan de bataille contre la drogue qui le détaillait en 7 points pour lutter contre le trafic de cocaïne par rapport à tout ce qui se passe à Anvers. Et moi j'ai fait De Croo qui ajoute un 8e point en disant pour la route, si j'ose dire, à savoir l'interdiction de territoire en Belgique pour Pierre Palmade. Alors évidemment je mélange deux actualités qui sont apparemment éloignées et qui n'ont rien à voir, ça donne un dessin, c'est une recette qu'on utilise. Mais surtout avec un dessin comme ça, je montre le côté, on va dire, large du combat contre le trafic de drogue et d'un autre côté quelque chose de particulier, c'est-à-dire ce qui se passe pour une personne qui consomme trop de drogue. Et donc j'ai fait de la drogue, de la cocaïne, et dans le deuxième dessin que j'ai fait dans le vif qui s'appelait Pierre Palmade, une vie en ligne droite, on voit une voiture qui va s'encastrer dans une autre après avoir franchi une ligne blanche qui s'avère être une ligne de cocaïne. Alors c'est vrai que sur des sujets comme ça, il y a des sujets que je ne traite en général pas, notamment le people, donc je vais jamais dessiner sur les dernières rues de coucherie entre stars ou sur les déclarations tapageuses d'une starette de la réalité. Mais ici, c'était différent parce que le problème est plus global, celui de la drogue. Et ensuite, on assiste vraiment à la descente aux enfers en direct de quelqu'un qui était apprécié du public, avec évidemment la circonstance aggravante qui l'a occasionné un drame épouvantable. Donc, je ne peux pas empêcher de m'interroger, c'est aussi mon métier, sur la composante humaine de l'affaire, à savoir quelqu'un dont on sait depuis 30 ans qu'il va dans le mur en s'autodétruisant. Sauf que là, il a entraîné des innocent dans sa chute, ce qui est absolument gravissime. Donc moi, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie, j'ai pas vraiment envie de commencer, mais si vous voulez une campagne de prévention contre les ravages de la cocaïne, avec l'affaire Palmade, vous êtes servi.
Voilà, et on prend votre dessin et on le met sur les grands panneaux, comme ça, le long de l'autoroute, pour s'en souvenir. Pierre Kroll, vous n'avez pas dessiné sur Pierre Palmade, rien du tout, hein, pourtant c'est très présent dans l'actualité, il y a une raison à cela ?
Oui, d'ailleurs, il y a parfois autant à dire sur un non-dessin, quoi, sur un dessin qu'on n'a pas fait, que sur un dessin qu'on a fait. Parce que ne pas en faire, c'est un choix aussi. Parfois parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a trop de sujets à traiter.
On n'est pas forcément inspiré.
Donc moi, j'en fais évidemment aucun reproche, aucune critique à mon ami Nicolas. Mais moi, personnellement, j'ai préféré, et je vais encore continuer le plus longtemps possible comme ça, ne pas dessiner sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a 3000 morts sur les routes en France. J'ai vérifié, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était en 2021, 2944. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette affaire est donc banale, puisqu'il y en a en fait 3000 et on ne parle que de cet accident-là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on le fait évidemment parce que Pierre Palmade est connu. Et du coup, on peut se poser des questions comme le fait Nicolas. Mais tous les journaux français, tous les médias français, des plus sérieux aux plus racoleurs, vous racontent tous les jours qu'il a un bracelet électronique ou qu'il n'a pas, qu'il va être convoqué demain, qu'il ira pas. Voilà, ça sentait. Maintenant, il a fait un AVC. Ses anciens amis viennent le balancer, les autres le dénoncer. Je n'ai pas regardé, mais j'ai lu que dans l'émission qui marche fort, là, maintenant, en France, de Léa Salamé, l'insupportable Yann Moix venait expliquer que Palmade devrait écrire une lettre aux victimes, aux parents des victimes. Il dit même les phrases qu'il faudrait qu'il y mette. Mmh. Et puis, un autre comédien, lui, vient dire que, attention, Palmade pourrait se suicider. Et Yann Moix de répéter, non, il ne le fera pas parce qu'il s'aime trop. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce truc ? J'ai aucune compassion particulière.
Trop de commentaires
pour Palmade, mais
sur cette affaire.
Évidemment, c'est absolument écœurant. Et moi, surtout, ça me questionne et ça montre à quel point les gens, je ne vous accule pas, Marine, ni cette maison, mais qui font ce dont, enfin, qui décident de ce dont on doit parler dans l'actualité, sont très souvent et de plus en plus des gens qui prennent l'actualité comme un ensemble d'ingrédients culinaires pour faire une espèce de malbouffe qu'on va nous servir et qui nous crée une addiction à elle aussi. Et donc, l'affaire Palmade, pour moi, c'est comme trop de sucre, trop de sel, trop de gras dans des plats préparés.
Il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez choisi de ne jamais dessiner, Pierre Kroll ?
Bon, jamais, il faut jamais dire jamais. Hein. Et parfois, j'ai eu beaucoup d'hésitations à le faire, et puis il a bien fallu y aller dans des très anciennes histoires comme la disparition de Julie et Mélissa. C'était difficile, et puis après, il faut raconter tout ça. Mmh. Et puis il y a des choses à dénoncer à peu près dans tout. Maintenant, pour le moment, par exemple, je résiste à tout dessin sur Marc Tarabella. Voilà, c'est pas par amitié particulière pour lui, c'est parce que on l'a pas encore confronté à son dénonciateur. Là, vous savez, le repenti, c'est quand même quelque part un type d'une moralité assez douteuse. Hein. D'une part, il prend du pognon du Qatar pour dire du bien du Qatar, et puis après, pour être moins puni, il dit du mal de ses amis. Si même Tarabella avait reçu de l'argent de lui, ce sera plus son meilleur ami, hein, ça c'est clair. Donc cette affaire, je préfère attendre qu'elle décante et qu'on en sache vraiment plus.
Nicolas Vado, ça vous arrive d'écarter volontairement un sujet, non pas parce que ça vous inspire pas spécialement, hein, mais parce que vraiment vous voulez marquer votre distance sur le sujet ?
Non, ça peut m'arriver parce que ça ne m'inspire pas. Au contraire, je ne vais pas pour marquer ma distance. Je voudrais revenir par rapport à Pierre Palmade. Les deux dessins que j'ai faits, vous aurez noté que je n'ai pas dessiné Pierre Palmade en lui-même. Ouais, parce que Pierre Palmade, je m'en fous. Je me fous de Pierre Palmade. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet dans sa globalité. C'est pour ça que je n'ai pas dessiné Pierre Palmade, mais j'ai dessiné les ravages de la cocaïne. Ça, c'est une première chose. Par rapport à Tarabella, moi, j'ai déjà dessiné Tarabella dans l'affaire du Qatargate, mais je ne l'ai pas dessiné mettant la main sur de l'argent donné par le Qatar, parce que pour l'instant il nie totalement toutes les accusations. J'ai dessiné sur l'affaire et je l'ai dessiné lui, mais sans le montrer comme coupable, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est soumis à la même déontologie que n'importe quel journaliste. Marc Tarabella ne reconnaît absolument aucune des accusations qui sont faites contre lui, mais il se trouve que ces accusations sont là, donc ça fait partie de l'actualité, mais c'est pas pour ça que je vais éviter de dessiner Marc Tarabella, mais je vais pas le dessiner en tant que coupable.
C'est ça, présomption d'innocence qui s'applique évidemment aussi dans le dessin. Allez, un dernier thème, puisque vous avez dessiné là-dessus aussi, Nicolas Vado, la réécriture des textes de l'auteur jeunesse britannique Roald Dahl, qui a écrit Mathilda ou encore Charlie et la chocolaterie. La maison d'édition veut lisser certains termes jugés polémiques pour ne pas heurter la sensibilité des lecteurs. Et vous comparez cela, Nicolas Vado, avec les 10 petits nègres devenus Ils étaient 10, et vous allez jusqu'à faire le parallèle avec Vladimir Poutine, qui réécrit lui aussi l'histoire, pour qui la guerre en Ukraine est une opération spéciale, etc. C'est assez audacieux, hein, ça, comme comparaison, vous allez loin.
Alors, je rappelle sur la caricature, comme disait très justement Rice, le dessin de presse va à la conclusion sans s'embarrasser du développement. Donc, c'est un peu notre métier. Donc, j'ai mis deux totalitarismes dos à dos, sans évidemment les comparer, c'est-à-dire que l'un est soft, c'est le wokisme, et l'autre, c'est la réécriture de l'histoire par Vladimir Poutine. Pour ce qui est de l'affaire Roald Dahl, il faut remettre les choses à leur place. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une affaire de gros sous, puisque ce sont les ayants droit de l'œuvre qui l'ont lissé au moment de la vente du catalogue à Netflix. Mais pour moi, on ne peut pas opposer l'argent à la question morale, notamment aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme anglo-saxon, il est d'obédience protestante, c'est donc en gros Dieu nous a donné la terre, c'est donc lui rendre grâce que d'en tirer un profit maximal. Donc même s'il y a une recherche de profit dans le fait de lisser les textes de Roald Dahl, et maintenant ça va arriver à James Bond, à Ian Fleming aussi, il y a une question de morale qui est sous-jacente là-dedans et qui, je trouve, est extrêmement inquiétante parce que ça agit en sous-main et de moins en moins en sous-main, et je ne pense pas que c'est en lissant les choses comme ça qu'on va arriver à faire réfléchir les gens. Vous savez, ce sont des textes qui ont été écrits à certains moments. Si vous reprenez par exemple les textes de Winston Churchill, il parle de la race anglaise. On va pas enlever ça parce que c'était pris dans une époque. C'est pas en effaçant le passé qu'on construit correctement le futur. Donc cette réécriture qui est en fait de la bigoterie, me paraît extrêmement inquiétante, et c'est une idéologie qui, pour moi, doit être combattue.
On précise que la maison d'édition est revenue un petit peu sur ses positions hein, entre-temps, et vu tout le remous que ça a fait, elle laissera les textes originaux disponibles tout en proposant cette nouvelle version un petit peu allégée, disons. Pierre Kroll, un avis sur ce sujet-là? Vous n'avez pas dessiné, je pense, hein, sur Roald Dahl, mais vous avez des choses à nous dire.
Ben, je partage évidemment l'avis de Nicolas là-dessus. Il faut rappeler que c'est aussi un long feuilleton. Hein. Il y a eu les dix petits nègres d'Agatha Christie qu'il a fallu corriger et tout. Donc moi, j'insisterai surtout sur ce qui consiste à revoir le passé qu'on peut faire. Et j'avais écrit quelques lignes pour un journal qui m'avait demandé mon avis à propos du remake de Blanche-Neige, je ne sais pas où il en est d'ailleurs, mais qui doit se faire sans les nains. Enfin, les nains doivent être des créatures féeriques, je ne sais pas quoi, mais pas des nains, tout bêtement, parce qu'on peut plus dire, on peut plus dire ça, des personnes de petite taille. Vous n'avez pas suivi ça?
Non, je connaissais la petite sirène.
Je vais me permettre de me lire, voilà, j'avais juste écrit ceci. Créons, inventons, écrivons, dessinons, filmons des nouvelles histoires autant qu'on veut et comme on veut. Oublions les vieilles histoires si on n'en veut plus, mais cessons de prétendre devoir les corriger. Voilà, le méchant loup, il a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Voilà, les ogres des contes de Perrault n'étaient pas véganes. Blanquette, la chef de M. Seguin, elle était blanche. Saint-Nicolas était catholique, il était même évêque. Blondine, là, du conte de fées, Blondine, ben, elle était blonde. Othello, lui, il était noir. Vercingétorix, pas. Et Adam et Ève, ils étaient hétérosexuels et ils avaient même, d'ailleurs, peu le choix.
Et voilà, voilà. Fera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Kroll. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas Vado?
Oui, si je peux me permettre, comme ça on boucle la boucle, il y a une interprétation de Blanche-Neige et les sept nains qui sont les sept états d'une personne qui prend de la cocaïne. Ça, c'est une vision.
Mais voilà, tu fais une espèce de boucle incroyable.
Donc voilà, en tout cas, Pierre Palman ne jouera pas dans Blanche-Neige.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été.